le sujet. C'est une situation, si vous voulez, de fiançailles post-mariage. Je ne sais pas comment vous dire. D'un fiançailles qui serait en même temps un veuvage. Okay. Et alors, c'est un verset très parallèle à celui que Rabbi Yehuda avait déjà cité la première fois. Regardez, Ad Yom Pogdi, Ad Sheter Patz. Vous voyez les deux versets? Le premier verset disait, jusqu'à ce que je leur fasse signe. Le deuxième verset dit, jusqu'à ce que le désir ne soit là. Imaginez un mariage prématuré. Okay. Et pour que la relation puisse être authentique, il faut qu'elle soit vraiment réciproque. Tant que ce n'est pas le temps, ce n'est pas le temps. Alors, quel est l'argument de Rabbi Yehuda? Tu m'as dit, contre mon verset, qu'à l'échelle individuelle, tu peux. Okay. Mais j'en ai un autre. Et contre ce verset-là, toi, tu ne peux rien. Okay. Vous voyez comment s'organise le dialogue entre Rabbi Yehuda et Rabbi Zera? Okay. Tu m'avais dit, ton verset, mon premier verset, ça, c'est pour le retour de la fin des temps. Okay. D'accord, mais j'en ai un autre de verset. Le voilà. Et celui-là t'empêche de monter. Bon. Qu'est-ce que répond Rabbi Zera cette fois? Et c'est là que nous allons avoir la première définition centrale vraiment de notre sujet. Rabbi Zera répond, vous suivez? Rabbi Zera, vous êtes là dans la page. Vous remarquez où vous êtes? Rabbi Zera, ici. Rabbi Zera, Rahu, Shelo, Ya'alu, Israël, Behoma. Qu'est-ce que ça veut dire, Shelo, Ya'alu, Israël, Behoma? Je m'appuie tout de suite sur Rashi. Est-ce que vous avez Rashi dans la traduction en français? Peut-être que vous avez un texte de plus en français pour moi que je puisse suivre. Non, il n'y a pas Rashi.
En bas, il y a marqué autre version, il ne rapproche pas.
Quoi, quoi?
Il ne rapproche
pas. Quoi, tout en bas? Non, 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 c'est pas là, c'est pas là. Eh bien, c'est Dafka là qu'il vous manque votre phrase, là. Okay. Oui. Il vous manque. Vous allez ouvrir une parenthèse, là. Ici, vous ajoutez Rabbi Zera. Après, vous avez d'abord Rabbi Zera, ensuite Rabbi Yehuda. Okay. Après Rabbi Yehuda, vous ajoutez Rabbi Zera. Et Rabbi Zera dit, ce verset que tu viens de me citer, attends, je ce verset que tu viens de citer, ça signifie que Israël a promis de ne pas revenir Bechoma en force, et ça veut dire prêt à faire la guerre, en force, avant le temps. Okay. Tu es bien, on est toujours dans la même cohérence. Ah, je fais passe, avant que ce soit le temps que Israël a promis de ne pas revenir. Je vous lis ici Rachid de mémoire, Yahad Beyat Hazaka. Tous ensemble et à main forte, c'est-à-dire en tant que nation, et prêt à faire la guerre. Ce qui est le cas maintenant, c'est comme ça que nous sommes revenus. Quel? Bon. Hein? Quel? Alors bon, ça vous manque dans le français, mais enfin, suivez-en-vous. Réponse de Rabbi Yehuda. Vous suivez? Réponse de Rabbi Yehuda. D'accord, ce verset, tu l'interprètes comme ça. Quelle est l'interdiction? C'est de revenir en force et tous ensemble. Enfin, tous ensemble, c'est-à-dire à l'échelle nationale, et en force, prêt à faire la guerre. Seulement, voilà, ce même verset est écrit une autre fois dans Shir HaShirim. Et en fait, nous verrons qu'il est écrit trois fois. Alors, est-ce que vous suivez? Ma? Mais suivez ce que je vous dis. Et nous avons déjà eu une première référence. Okay. Bon, c'est laquelle? chapitre 2, verset 7. Et là-dessus, il y a eu une discussion entre Rabbi Yehuda et Rabbi Zera. Rabbi Zera lui objecte, ça veut dire « Shelo ya'alu bechoma ». Okay? Bon. Et Rabbi Yehuda répond à ce moment-là, lisez sur le texte, « Ishvarti aharina k'tiv ». Il y a un verset qui commence par « Ishvarti », un autre « aharina » qui est écrit. Ça veut dire qu'il y a un deuxième verset. Et je vous ajoute tout de suite, mais suivez bien ce que je vous dis, en fait, ce verset est trois fois, avec une petite différence. Et il y a une quatrième formule qu'on verra après. « Ishvarti aharina k'tiv ». Alors, Rabbi Zera, qu'est-ce qu'il va faire avec le deuxième verset, le même ? Vous voulez les références ? Vous les avez ? Bon. C'est lequel, la deuxième référence ? Ma ? 3-5, d'accord. Alors, Rabbi Zera répond. L'explication « Hahu meba'ele kede Rabbi Yosef et Rabbi Hanina ». L'explication est selon l'enseignement de Rabbi Yosef, fils de Rabbi Hanina. Chez Amar, qui a dit « Shalosh vuot alalu lama » Ces trois versets où il y a un serment, « Je vous adjure, fille de Jérusalem », ça veut dire que nous avons juré, okay, premièrement, de ne pas revenir en force et prêt à faire la guerre. Ensemble et prêt à faire la guerre. Le deuxième, « Ve'ahad sheishbi'a akadosh bo'ochou et Israël shelo imredu be'umot ha'olam » Le deuxième serment, c'est que il nous faut trois serments déjà, puisqu'il y a trois versets. C'est clair ? Premier serment, comme on a vu. En force et tous ensemble. Deuxième serment, que Israël a juré de ne pas se révolter contre les nations du monde. Après, j'expliquerai. Troisième serment, « Ve'ahat she'ishbi ha'akadosh baruch hu et ha'ovdei abodazara she'lo ishtarbedu ba'en be'Israël yoter midah » Et que Dieu a fait jurer les nations du monde de ne pas trop persécuter Israël. Voilà, nous avons donc d'abord trois serments qui vont ensemble. Après, je verrai les trois autres. Et pourquoi, en réalité, il y en a six. Premièrement, trois. Ça y est, de un, on est passé à trois. Premier serment, de ne pas revenir à l'échelle nationale et avec déjà des forces de Haganah prêtes, de telle sorte que le cas échéant n'ait besoin de Tsahal. C'est ça, Médinat Israël. Il n'y a pas eu avant jamais. C'est clair ? Bon. Deuxième serment, qu'Israël ne se révolte pas contre les nations du monde. Troisième serment, que les nations du monde ont promis de ne pas trop persécuter Israël. Alors, je vais vous expliquer les trois serments à la fois, de telle sorte de vous montrer assez rapidement que nous avons vécu ces trois signes de notre temps. Et vous allez voir dans quel ordre, et vous comprendrez pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que beaucoup de choses auraient pu être évitées si... Je vais vous dire tout de suite, tout à trac, au moment de la déclaration Balfour, et plus encore au moment de la, du comité de San Remo, vous connaissez ces dates ? Balfour, 1917. San Remo, 23. Bon, je vous expliquais de quoi il s'agit. Et on aurait pu éviter la suite. Et alors, le deuxième serment. Israël a promis de ne pas se révolter contre les nations du monde. Ça veut dire de ne pas déclencher ce retour contre l'accord des nations du monde. Or, les trois fois que nous avons mis fin à l'exil, la même clause a joué. Premièrement, la sortie d'Égypte. Et vous retrouverez tout le récit en détail. On n'a pas pu sortir d'Égypte tant que le pharaon n'était pas d'accord. Dès qu'il a été d'accord, on a pu sortir d'Égypte. Ensuite, il s'est revisé, mais c'est trop tard. Okay ? Tout ça, je vais expliquer. La deuxième fois, à la fin de l'exil de Babel, il y a eu la déclaration Cyrus. Cyrus a donné accord. Alors on a pu quitter l'exil de Babel. Et la troisième fois de notre temps, quelle clause a joué ? La Société des Nations. La déclaration Balfour a été enregistrée par la Société des Nations en 1923 à San Remo. Ça y est, c'est clair ? Bon. Je vais vous expliquer le problème qui se pose là. Il y a d'abord un étonnement. Pourquoi il faut attendre la permission des Goïm pour pouvoir déclencher le retour? Mais vous remarquez déjà que dans les faits, c'est comme ça que ça s'est passé. Okay. Deuxièmement, ce qu'il faut bien percevoir, c'est cela. C'est que, et dans la mesure Et nous sommes toujours dans le monothéisme total dont je vous parle toujours. Dans la mesure où il y a un sens à l'exil, alors il y a une sorte de contrat entre Israël et les nations, au nom du Dieu unique. Et par conséquent, ce contrat ne peut pas être rompu unilatéralement. Est-ce que c'est clair ? Admettons qu'il y ait des raisons qui nous pressent à rompre le contrat. Par exemple, le serment, le troisième serment que les nations n'ont pas respecté, de ne pas trop persécuter Israël. Okay ? Et vous voyez pourquoi ces trois serments sont groupés ensemble. Vous suivez ? Alors à ce moment-là, eh bien, il faut l'accord de la deuxième partie. Or, pendant 2000 ans, il n'existait pas d'instance universelle pouvant donner ce « ok » à Israël. Pendant 2000 ans, a joué le principe des nationalités. Et les Juifs étaient exilés dans telle ou telle nationalité. Si une disait « oui, d'accord, revenez », l'autre disait « non ». Et il a fallu attendre qu'il y ait une instance. Moi, je vous dirais tout à l'heure l'inverse, mais d'abord comme ça. Il a fallu d'abord attendre qu'il y ait une instance internationale qui puisse, au nom des nations, la société des nations, Pitom, ça apparaît quand on en avait besoin. Ils se sont occupés de quoi ? D'enregistrer la déclaration Balfour et ils ont disparu. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre, la SDN ? Choum d'abord. Vous avez remarqué ça ? Okay. Bon. Et apprenez l'histoire de la SDN. Okay. La Société des Nations. Ça s'appelait le Hever Amim en hébreu. Okay. Après l'ONU, okay. À quelle époque l'ONU s'est constituée ? Pour enregistrer l'indépendance de l'État d'Israël. Depuis, de quoi ils s'occupent ? Que de ça. Vous avez remarqué ça ? Bon. Mais revenons. Vous avez vu tous les 1000 problèmes qu'ils ont sur Terre. Ça ne les concerne pas. Tous les problèmes des Goïms. Comment ça s'appelle l'ONU en français ? J'ai oublié. Les Nations Unies. Ça ne s'occupe pas du problème des nations. Ils s'occupent d'une seule chose. Qu'est-ce qui se passe avec Israël ? Vous avez remarqué ça ou pas ? Par exemple, le conflit entre l'Iran et l'Irak. Vous croyez que la Société des Nations va intervenir ? Alors que ça risque de mettre la planète à feu et à sang ? Pas du tout. On s'en fiche éperdument. De quoi on se préoccupe ? D'envoyer un émissaire de l'ONU parce qu'il y a 60 bateaux de la marine marchande de je ne sais pas où pris dans le Golfe, là-bas. Et alors ça, on s'occupe de ça. Mais faire la paix entre l'Iran et l'Irak, ils peuvent se détruire mutuellement. On s'en fiche éperdument. Dès qu'il y a une guerre en Israël, tout le monde intervient. Vous avez remarqué ça ? Et alors là... Le principe est le suivant, okay, c'est que il faut qu'apparaisse une instance universelle qui puisse, au nom des nations en général, prendre acte de la fin d'un exil. Or, le seul messianisme cachère, d'après cette Guémara, c'est le sionisme, parce que la Société des Nations l'a enregistré. De la même manière qu'il fallait attendre que le pharaon dise « ok », sinon on était KO. Et puis, que Cyrus donne le feu vert pour la Alia. Est-ce que c'est clair, cela ? Alors, vous remarquerez bien que ces trois clauses ont joué en même temps. Okay. En même temps, à la même époque, apparaît le mouvement sioniste. La Société des Nations l'enregistre. Et les persécutions se font trop persécutions. Okay. De ça, je vais parler encore un peu. Et on n'est pas encore au nazisme. Okay. Quelles étaient les persécutions contemporaines de la naissance du sionisme qui ont fait que la Société des Nations ont enregistré le foyer juif en Palestine ? C'était les persécutions de Russie et d'Europe centrale. Nazisme, il n'y avait pas du tout. Okay. C'est clair ? Bon. Et par conséquent, les signes ont joué. Le peuple juif n'a pas suivi, le nazisme n'est pas fait. Là, j'ai un peu anticipé sur la suite, mais ça, vous allez l'apprendre tout à l'heure. Vous suivez ? Bon. Alors, vous voyez bien de quoi la Guémara nous parle. La Guémara nous parle de ce qui est la réalité concrète de l'histoire telle qu'elle se passe. Okay ? Et pas des histoires. Est-ce que le Messie est arrivé ou pas ? C'est un autre problème. Vous suivez ? Bon, ces signes-là sont arrivés. On n'a pas eu de chance parce que le dernier signe, c'était un signe allemand. Mais je reviens au problème. La difficulté ici, c'est de comprendre qu'il y a une espèce de contrat réciproque. En passant, mais je crois que je n'ai même pas besoin de vous le dire, est-ce que vous présentez un peu qu'est-ce que c'est que l'enseignement talmudique, okay? Vous voyez comment, à travers quelques mots de citation de versets, c'est l'explication de l'histoire qui nous est donnée. Vous suivez? Et réagissez un peu, là, vous allez errant. Bon. Il y a un problème que Maïmonide nous aide à comprendre d'autre part, c'est cette troisième clause. Voilà. Vous voyez, pour que l'exil soit possible, il faut jurer de ne pas revenir avant le temps. Parce que l'exil, là d'abord je vous cite le Maharal, parce que l'exil est tellement anormal que pour consolider le fait de tenir le coup dans une situation tellement anormale, il fallait un serment. Sur quoi ça porte? Premièrement, sur ces trois clauses-là. De ne pas revenir, de ne pas mettre fin à l'exil, sorti d'Égypte, par exemple, avant que ce soit vraiment le temps. Okay? Premier serment. Deuxièmement, de ne pas revenir sans avoir le OK des goyim. Et puis troisièmement, puisque la situation d'exil mènera inévitablement à la persécution, les goyim s'engagent à ce que la persécution ne soit pas trop forte. C'est surtout ce troisième point qu'il faut que je vous explique. Or, c'est quand le peuple juif a diagnostiqué que ça devenait vraiment invivable, et ça s'est passé en Russie et en Europe centrale, que les trois clauses ont été déclenchées. C'est clair? Je pense que c'est suffisamment clair. Et alors Maïmonide nous explique cela dans un des passages du Shmoneh Prakim, et il reprend dans le Moreh Nebuchim d'ailleurs en nous disant ceci. C'est que si les Égyptiens ont été punis, c'est parce que, bien que Dieu avait prévu qu'il y aurait exil et donc persécution, c'est parce que, à l'échelle individuelle, chaque Égyptien était libre de se conduire bien vis-à-vis des étrangers ou pas. Lorsque Dieu annonce déjà à Abraham, sache que ton peuple sera exilé et donc persécuté, ce n'est pas, comment dire, une fatalité qu'il le soit par les Égyptiens, par exemple. Je veux dire, ça ne prive pas les Égyptiens de la possibilité d'être moraux. Il énonce simplement ce verset qui annonce l'exil et la persécution à Abraham pour sa descendance, il énonce une loi du mécanisme du fonctionnement des sociétés. Seulement, les Égyptiens ont exagéré. Et c'est la raison pour laquelle ils ont été punis, nous dit Maïmonide. Vous voyez? Parce que sinon, il y aurait objection. La Torah prévoit, pour qu'on les punisse, ils ont exagéré. Et c'est bien ce que la Torah nous raconte. Okay? Alors, c'est ça qu'il faut expliquer. Lorsqu'une minorité va dans une culture étrangère, mais sans tête dans sa différence, inévitablement, elle secrète un phénomène de rejet. C'est la raison pour laquelle il fallait qu'Israël sache à l'avance que s'il va en exil, il risque d'être persécuté. Seulement, corollairement, les goïms devaient promettre de ne pas exagérer. Or, ils ont exagéré, ça déclenche la fin de l'exil. C'est clair? Vous avez bien compris comment les trois clauses jouent ensemble. Bon, alors je crois que maintenant, il est bien évident que, à moins d'avoir les yeux bouchés, je ne sais pas, on ne peut pas ne pas voir que la Gemara nous parle de ce qui s'est passé. Et plus encore, ce diagnostic, c'est le même que nous étudions en détail dans les récits de la sortie d'Égypte, que ça se passe comme ça. C'est clair? Vous voyez? Et c'est écrit dans la Gemara comme ça. On peut avancer? C'est suffisamment clair jusque-là?
Oui. Question. De Cyrus, qu'est-ce qui s'est passé? Les goyim ont trouvé les Chaldéens?
Non, la... c'était la destruction du premier royaume d'Israël dans cette même des exilés d'Israël dans cette même civilisation. Je vais vous dire le dernier texte du Tanakh parle de cela. Et vous allez avoir une surprise. Ça peut donner d'ailleurs un slogan pour le Marc. Vous allez voir ça. Prenez les derniers versets. Tout à fait, la fin du Tanakh. Hein. Les derniers versets de la Bible. C'est le chapitre 36, l'Icha, verset, on va lire verset 22 et 23. À la fin du Tanakh. Hein. Le dernier texte. Bon, je vais vous lire, ne perdez pas de temps. Ubishna tachat le koresh melech paras. Et la première année de Cyrus, roi de Perse, l'Ichlot de Bar Yehuda, à la fin de la révélation de Dieu, Befi Yirmiyahu, dans la bouche de Jérémie, et Ir Hashem et Ruach Koresh melech paras. Dieu a éveillé l'esprit de Cyrus, Koresh de Cyrus, roi de Perse. Vayahavir kol bechol malchuto. Et il a fait passer un édit dans tout son royaume. Vegam bemichtav les morts. Et c'était même mis par écrit pour dire Koamar Koresh Melech Paras. Ainsi a dit Cyrus, roi de Perse. Kol mamlechot haaret natani Hashem Eloke Hashamaim. Tous les royaumes de la terre, Dieu me les a donnés. Hashem, Dieu du ciel, me les a donnés. Vehu pakad. Alay. Et il m'a donné la consigne livnot lo baït birushalayim. De lui construire un foyer à Jérusalem, une maison. Asher Bihouda, qui se trouve en Judée. Et il s'adresse aux Juifs. Mi Bachem, qui parmi vous, Mikol Amo, de tout son peuple, Hashem Elokav Imo, Hashem son Dieu avec lui, Veyaal, et qu'il monte. Vous voyez que le dernier mot de la Bible, c'est Aliyah. Veyaal. C'est clair? Donc. Alors, je reviens au problème. Et ça, vous apprendrez dans les tableaux historiques, nous les suivrons à propos de Pourim. Il y a eu la déclaration Cyrus. Okay. Et le texte nous dit très clairement, il avait l'instance politique universelle de ce temps. Et donc, il pouvait, lui, Cyrus, dire aux Juifs, votre exil peut prendre fin, ça dépend que de vous. Okay. Et nous savons, par l'ensemble des récits historiques du Tanakh lui-même, et vous verrez les dates, les Juifs n'ont pas bougé. Alors, l'antisémitisme d'Aman s'est déclenché quelques années après. Et il y a eu le miracle qu'Esther a sauvé le peuple juif. De notre temps, il n'y a pas eu d'Esther. Vous voyez ce qui se passe, okay? C'est-à-dire, la déclaration Cyrus est avant Aman. De notre temps, qu'est-ce qui s'est passé? La déclaration Balfour, les Juifs n'ont pas bougé, Hitler est arrivé. Et là, il n'y a pas eu d'Esther. Vous voyez le problème? Et la raison en est que c'est la dernière fois. C'est le troisième exil et il n'y en a pas d'autre. Bon. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai dit tout à l'heure qu'on va arriver au point que il est bien évident que nous avons vécu un mécanisme d'événement que, disons, les autorités de l'époque n'ont pas voulu diagnostiquer. Or, il est arrivé que pendant la guerre 14-18, la déclaration Balfour, c'est 1917. Pendant la guerre 14-18, le Rav Kook, le père, était en chemin, était en voyage. Il était à ce moment-là le grand rabbin de Yafo. Et il devait être nommé grand rabbin d'Israël. Il était en voyage en Suisse. Et il a donc été bloqué par la guerre. Et il a pu être, alerté du fait que l'Angleterre se préparait à donner la déclaration Balfour. Vous connaissez les péripéties avec Weizmann et Tom. Et que les rabbins s'y opposaient. Alors il s'est arrangé pour aller à Londres. Et si la déclaration Balfour a pu être quand même signée, c'est par l'intervention du Rav Kook à Londres au moment de la Première Guerre mondiale. Okay. Et donc il y a la déclaration Balfour. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point les parallèles similaires à la déclaration Koresh. Foyer national en Palestine. Qui sont les Juifs qui veulent aller en fond de l'agent juif? Ça se passe au moment de la Première Guerre mondiale. Bon. Et puis, le peuple juif n'a pas bougé. Vous savez très bien, à l'époque, la Palestine, c'était pour les Juifs apatrides. Les Juifs qui étaient citoyens d'une nation disaient, laissez-nous tranquilles, on vous enverra peut-être de l'argent et encore. Mais vous avez les petits rendus KKL, un sou, deux sous, trois sous. Donc. Et puis, les Juifs qui n'ont pas de patrie en Palestine. Qu'est-ce qui s'est produit? Eh bien, il s'est produit l'apparition du nazisme. Vous voyez le déroulement des, des œuvres. Ça y est, c'est clair? Bon. Or, tout ça a été déclenché, pourquoi? Vous voyez que c'est une grave erreur de dire que la cause de l'État d'Israël, c'est le nazisme. C'est les persécutions nazies, c'est une grave erreur. La cause de l'État d'Israël, c'est les persécutions de la fin du siècle précédent dans la civilisation européenne. Okay. Ça commençait à devenir insupportable, comme on n'avait jamais supporté. Et alors, c'est là que le déclic s'est produit dans la conscience des Juifs d'Europe. Okay. On dit, si nous ne décrochons pas, le peuple juif est perdu. Qui se sont opposés? C'est là que je voulais en venir. Les rabbins, pas tous les rabbins, je vous ai cité le Rav Kook, mais avant le Rav Kook, il y a eu toute une lignée de rabbins qui ont dit, c'est le temps, et c'est le temps, il faut tout de suite décrocher et aller reconstruire Eretz Israël. En particulier chez les Sfaradim et le Rav Al-Kalai, et chez les Ashkenazim, le Rav Kalisher, avant le Rav Kook. Okay. Mais la majorité des rabbins se sont opposés, en disant, mais on ne voit pas le Messie, vous voyez. Okay. Vous voyez qu'ils ont été frappés d'une sorte d'incapacité aveugle de diagnostic de ce dont il s'agissait, dans l'histoire d'Israël. Et là est arrivé un épisode extrêmement important et grave de l'histoire contemporaine. C'est que les sionistes, pour pouvoir accomplir le sauvetage du peuple juif, ont dû s'opposer aux communautés religieuses. Vous comprenez ce que je veux dire? Et nous sommes en train encore de payer les conséquences de cette rupture. Parce que, qu'est-ce qui est arrivé? Les communautés religieuses étaient tellement installées dans la symbiose judéo-goy qu'ils ont pris les événements pour de l'antisémitisme habituel. Ils ont oublié ce qu'il y a écrit dans la Gemara, de ne pas trop persécuter Israël. Ils n'ont pas vu que c'était trop. Ils se sont dit, bon, ça passera. On fait le gros dos comme d'habitude, 2000 ans, une habitude inouïe de symbiose judéo-goy dans le risque de la persécution. Okay. Et les sionistes ont dû, pour pouvoir sauver les juifs, démolir les synagogues. Et c'est les conséquences de ce conflit que nous payons encore aujourd'hui. Est-ce que vous suivez? Il s'est déclenché une haine réciproque entre les deux parties du peuple juif, terrible, inexpiable. Pourquoi? La haine des juifs religieux devant le fait que les sionistes étaient des renégats absolus. Okay. Pour sauver le peuple juif, il faut démolir la Torah. Imaginez la réaction des juifs religieux. Okay. Faux messianisme. Et la haine des sionistes contre les juifs religieux, c'est vous qui empêchez les juifs d'être sauvés. Est-ce que vous voyez ce dialogue de fou, pas de fou, infernal. Okay. Et c'est encore grosso modo l'état des choses. Dans ces deux parties-là, il y a une espèce de haine réciproque inexpiable. Seulement, il faut comprendre les deux côtés. Okay. Imaginez un juif religieux de la Torah, pour qui la Torah seule a sauvé Israël pendant 2000 ans, 3000 ans, 6000 ans. Okay. Et puis qui ne voit pas que c'est le temps de la fin d'exil, et qui voit que ceux qui construisent l'État d'Israël, c'est les renégats de la Torah, ça déclenche une haine, mais vous détruisez le monde. Okay. Oui. Inversement. Ceux qui ont perçu que si on ne décroche pas de l'exil, c'est le nazisme, et c'est arrivé. Qu'est-ce que ça veut dire, ce qui est arrivé dans les fours crématoires, okay? À cause de quoi? À cause du fait qu'au nom de la Torah, on empêche le retour en Palestine. Pourquoi? Parce que peut-être ces colons des Abonim ou de Hachomer Atzahir, ils vont fumer le Shabbat. Quel rapport, okay? Vous voyez le problème? Alors là, cette espèce de rupture et de conflit terrible que nous sommes encore en train de vivre les conséquences. Une minute, j'ai vu. Ça, nous nous trouvons, si vous voulez, à la presque à la fin d'ailleurs de l'étude, mais au groupe des trois premiers serments. Est-ce que c'est clair? Vous avez bien compris? Bon, les détails, vous pouvez les estomper. L'essentiel, c'est de suivre le raisonnement de la Gemara. Est-ce que c'est clair? Bon. Qu'est-ce que vous dites?
Pourquoi, après 45, et puis ensuite cette histoire n'est pas finie, puisqu'on la relit encore à peu près dans les mêmes dimensions?
Tu veux dire de notre temps maintenant?
De notre temps maintenant. Bon. Pourquoi, on a l'impression qu'il y a une phase qui s'est passée?
Non, parce que c'est un stade, une phase qui a commencé en 17 et qui n'est pas achevée. Elle s'achèvera, bon, je ne veux pas dire. Non. Mais c'est la même phase que nous sommes en train de vivre. Durant, le souci que nous avons, c'est pas pour ceux qui, comme nous, je parle de la chita du Rav Kook, sont plus que convaincus, c'est une question de conviction, on lit, les choses sont lisibles. C'est que c'est Dieu qui a fait cet état. C'est la fin de la prophétie, c'est l'accomplissement de la prophétie hébraïque qui commence à Abraham. Okay? C'est ça qui se réalise. Eh bien, nous ne sommes pas inquiets pour l'avenir de l'État d'Israël. Parce que c'est Dieu qui le fait. Okay? Si vous avez bien compris que ça veut dire la foi biblique. Okay? C'est pas de la magie. C'est à travers l'histoire que l'histoire se fait. Mais nous sommes inquiets du sort des Juifs. Et c'est là qu'est le stade. D'ailleurs, c'est un peu réciproque. À quel prix l'État d'Israël se fera, ça dépend du nombre des Juifs. Okay? Quel sera le sort des Juifs? Ça dépend de ce qu'ils décideront, rester en Gola ou revenir en Israël. Okay? Nous sommes dans cette phase-là. Et il y a une sorte d'inertie de la part du peuple juif qui fait que cette phase, qui commence en 1917, n'est pas terminée. Tu comprends? Qu'est-ce qui s'est passé en 1917 en même temps que la déclaration de Balfour, la révolution d'octobre? Et finalement, c'est avec eux qu'on en a, les Russes. C'est visible à l'œil nu, je pense. Bon. Et ça s'est mis en place en même temps. Okay. Et ce que Hitler a fait, eh ben c'est la Russie qui le continue. Et ça se passe de la même manière contre les Juifs, et le monde entier semble croire que ce sont des affaires intérieures d'un régime plus ou moins libéral, plus ou moins autocratique. C'est ça qu'il faut découvrir. Vous comprenez? Nous sommes dans cette phase-là, et on continue à nous dire des chouillottes. Bon, on parle des problèmes de cache-route, alors qu'il faut prendre la route. Et là. Alors on aborde le reste. Ça va? On peut terminer? Comment?
La persécution n'était pas assez.
Elle était terrible. Elle est
suffisante. Oui, non, c'est ce qu'on ne comprend pas. Pourquoi une phase supplémentaire, alors que normalement, ça aurait été suffisant pour.
Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi tu ne comprends pas que le problème, il n'est pas dans la Gemara, il est dans la cervelle des Juifs. Okay? C'est-à-dire que le problème, c'est qu'est-ce que c'est que ce peuple à qui ces leçons-là ne servent pas de leçon. Okay. C'est ça qu'il faut comprendre. Vous voyez que si, en 1917, les Juifs de France, d'Angleterre, d'Amérique, d'ailleurs, auraient dit, mais ces voyous, là, les sionistes, mais c'est eux qui ont raison, ça fait 2000 ans qu'on croit ça, et puis voilà, c'est arrivé, si leur rabbin avait suivi le Rav Kook au lieu de suivre des barbus, c'est pas une question de barbe, c'est de vie, c'est top. vous voyez le problème. Eh bien, à ce moment-là, le nazisme aurait été évité. Je vais vous dire quelque chose de plus. On a habilité une espèce de légende. C'est que l'État d'Israël nous a été donné en compensation à l'Holocauste, comme ils disent, à la Shoah. Mais pas du tout. Si nous n'avons eu qu'un si petit État d'Israël, c'est parce que le nazisme a réussi à tuer dans l'œuf la résurrection nationale du peuple juif en Europe. Ces 6 millions de juifs qu'il a brûlés nous manquent ici. C'est pour pas qu'ils soient là qu'il les a brûlés. Et les juifs continuent. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est tout le contraire. Hein? C'est-à-dire que à l'apparition du sionisme, il y a eu un mouvement qui n'existait pas depuis 2000 ans de réhabilitation de la nation juive qui s'est déclenché et le nazisme l'a cassé. C'est tout le contraire. Nous ne sommes que un état de rescapés, de rescapés, de rescapés, de rescapés. Hein? Et alors on nous raconte les histoires à l'envers, que si le bon Dieu nous a donné cet état d'Israël, c'est pour nous compenser de l'Holocauste. C'est tout le contraire. Vous voyez à quel point les clés du problème sont dans la main des Juifs. C'est ça que j'essaie d'expliquer. Est-ce que c'est compris Bon. Et vous voyez que ce genre d'études, on ne peut le faire qu'avec la Gemara. Et on ne peut pas, dans un cercle d'études, je ne sais pas quoi, une conférence, une réunion, on ne peut pas s'expliquer là-dessus. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut l'étudier dans la Gemara. Et c'est pourquoi, encore une fois, je vous dis que seuls ceux qui sont capables de situer le problème à ce niveau sont les chefs spirituels des communautés. Ils s'occupent d'autre chose. Ils font des mariages, ils font des enterrements, ils trinquent la nisette à la bar mitzvah, ils sont contents, ils sont juifs religieux. Alors que c'est pire que ça, chez les rabbins. Bon, attends une minute. Là, je vais vous dire, à la rigueur, on pourrait dire, bon, et ils n'ont pas appris cette Gemara. Et encore, ça m'étonnerait, parce qu'un rabbin qui fonctionne normalement, ben, il s'occupe aussi des traités de mariage. Cette page est dans la Maseret Ketuvot. Okay? Comment ils ont fait pour ne pas l'avoir? Ah, ils ne savent peut-être pas faire un contrat de mariage. C'est possible. Okay. Mais tout l'histoire du Chumash, tout le livre de Shmot, enfin les quatre livres à partir de Shmot, okay, raconte ça. Et c'est ça que nous vivons, mais ils ne le voient pas. Oui, ils sont dans la religion juive, ils ne sont pas dans la nation juive. C'est ça qu'il y a de grave. Est-ce que c'est bien clair? Et alors, ils ont en face d'eux ceux qui sont dans la nation, mais qui ne sont pas dans la religion. Alors on est bien monté. Oui, vous voyez le problème? Alors vous êtes bien monté. Je n'ai pas monté. Bon, Alia. Tu as une question, oui. Je peux avoir un verre de quelque chose de chaud?
Je comprends bien chaque chose que vous expliquez, mais je vois plus très bien maintenant le dialogue.
Le dialogue entre qui et qui? Non. La Gemara nous dévoile, elle commence à peine, la moitié. La Gemara nous dévoile, à travers le dialogue entre Rabbi Yehuda et Rabbi Zera, quels sont les signes auxquels on reconnaît la fin de l'exil. Okay. C'est clair?
Où était écrit, comment ça se fait qu'il y a des rabbins qui croient que la fin de l'exil sera avec le Messie?
Parce qu'ils n'ont pas étudié ces choses-là et qu'ils attendent le Messie de la fin des temps, qui est le Machia Ben David, le Messie de la transfiguration du monde, la résurrection des morts. Alors qu'avant le Messie du Machia Ben David de la fin des temps, il y a le Machia Ben Yosef de la résurrection nationale. Et bien celui-là, il, en tout cas, il travaille, il fonctionne. Okay. Puisque vous mangez des tomates du vide.
Okay. Non, c'est Ben Gurion.
Qui a dit ça? Qui a dit ça? Je voudrais bien m'y répondre. Ça, c'est un chapitre qu'on n'a pas encore étudié. Okay. Mais je veux dire ce qui est arrivé. Ce qui est arrivé surtout en Occident, et ça vous fera comprendre pourquoi les masses des pays sfarades non occidentalisés, dès qu'ils ont entendu dire il y a une nation juive en Eretz Israël, ils sont venus à plat ventre. Et pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas encore occidentalisés. Vous voyez ce que je veux dire? Les Yéménites, les Irakiens, les Marocains, etc. Okay. Qui sont venus? Pas les occidentalisés. Okay. Ceux qui avaient la tradition juive que la première étape des temps messianiques, c'est le retour à Sion dans le Rassemblement national. Ils ont entendu dire dans le fin fond de la brousse, ça y est. Alors ils se sont dit, à pied, on y va. Et ils sont revenus. Au bout de 2000 ans. En Occident, il est arrivé une catastrophe. C'est que tout ce qui concerne l'enseignement de la Torah sur le messianisme a été complètement abandonné à la longue à cause du triomphe du christianisme. Étant donné que le christianisme avait triomphé comme religion dominante et qu'il parlait de messianisme à sa manière, on n'a plus parlé de ces choses-là. Et on n'a tellement plus parlé de ces choses-là qu'on les a oubliées. Vous comprenez? Et alors, dans la religiosité du monde occidental, on ne connaissait plus que le Mashiach de la résurrection des morts. Okay? Et on ne savait même pas que, on savait même plus que c'était Mashiach Ben Yosef. Et que Mashiach Ben Yosef, c'est le rassemblement national. Okay? Sauf chez les kabbalistes. C'est la raison pour laquelle, par exemple, l'école du Gaon de Vilna, d'où sort le Rav Kook d'ailleurs, qui était une école kabbaliste, a diagnostiqué cela. Mais tous les autres rabbins les ont traités de mystiques. Comment Dieu va nous donner Israël avec la Shomer HaTzair? Imaginez le scandale. Je vais vous raconter une histoire que nous a raconté le Rav Kook. Je sais pas si je vous l'ai raconté cette année. Une histoire genre chassidique, mais c'est une histoire sioniste. un jour, dans une petite ville de Pologne, la communauté, tellement impatiente d'attendre le Messie, avait payé un chômeur, comment on dit, un guetteur, pour guetter, si jamais le Messie arrive, qu'on prévienne la communauté. Et alors un jour, le Messie est arrivé. Alors le guetteur va vite à la synagogue, ça y est, il vient, vite, vite, préparez-vous. Alors on rassemble tous les notables pour décider comment on accueille le Messie. Et ça commence à discuter. Est-ce qu'on met des bas blancs, est-ce qu'on met des bas noirs, top. Comment le talit, comment pas le peuple. Tout le monde était à la synagogue en train de discuter. Comment on accueille le Messie? Ils discutaient pieusement. Pendant ce temps, le Messie arrive. Qui y avait dans la rue? Les voyous, la chômère à Tsaïr. Alors le Messie s'approche, dit, ils sont drôles mes juifs, mais enfin, mes juifs. Et alors il demande, qui vous êtes? Eh bien, nous sommes les juifs. Ah bon, vous allez, ils ont un drapeau bleu et blanc. Et alors, il lui demande, et toi qui tu es? Eh bien, je suis le Messie. Ah, tu es celui qui nous emmène en Eretz Israël, allez, on va avec toi. Et ils s'en vont. Pendant ce temps, on a fini de discuter dans la synagogue. Et alors, en fin de compte, on s'est mis d'accord, on ne sait pas comment. Et puis, on descend dans la rue, on voit au loin une troupe s'en aller avec le Messie. Ils se mettent à courir. Messie, attends-nous. Alors le Messie qui se tourne et demande à la chômère à Tsaïr. Non, qui c'est ça? Alors la chômère à Tsaïr, gentil, il dit, allez Messie, attends-les, c'est aussi des Juifs. Vous voyez la fin de l'histoire. Okay. Et bien, c'est ça qui est arrivé. Toujours, c'est ça qui est arrivé. Et c'est aussi des Juifs. C'est pour ça que... Mais vous voyez cette histoire de fou. Parce que c'est ça qu'on a vécu. Finalement. Voilà. Ouais. Non. Mais c'est non. Bon. Alors voilà ce qui est arrivé. Et ça continue, comme vous voyez. Okay. Moi, je me rappelle encore un temps où quand on apprenait à la synagogue, tu sais, le fils Intel, il s'en va en Palestine. Quel voyou. Quoi, vous l'avez connu ça?
On
vous connaissez encore. Mais comment? Il abandonnerait père et mère. Voyou, pas mal. Caca. Ok. Et le père et la mère qui, à chaque Pessah, dit les chana. Bon, on continue? Quoi? Quand vous n'êtes pas déjà affolé?
Est-ce qu'on se fait une semaine de réel ou on attend le soleil qui se
lève? Non, écoutez. Non, je crois qu'il est déjà près de 4 heures. Alors, on va arrêter dans 10 minutes. Je vais vous sauter une partie qu'on fera un autre jour et on va arriver à la conclusion. Okay? Pourquoi? Parce que je ne voudrais pas la gâcher. Quoi, vous êtes capable de travailler encore une heure? Non, hein. Non, si c'est pas. Non, si vous n'êtes pas capable d'intégrer, c'est pas la peine. Ça me rappelle une autre histoire de chômeur qu'on avait payé pour. Oui, mais on va s'arrêter même pas à la conclusion, on reprendra après. Ça me rappelle une autre histoire de chômeur qu'on avait payé pour attendre le Messie. Alors son ami lui a dit il te paye bien, la communauté te paye bien. Il dit pas tellement, c'est bon, c'est un travail assuré. Thank you. à vie. Mais je vous l'ai dit. Parce que si dans un couple, un des conjoints veut aller en Eretz Israël et l'autre pas, alors c'est lui qui a droit à la Ketouba. Bien. Mais écoutez, on va s'arrêter provisoirement. Vous allez mettre tout en ordre. Pas un papier dehors, les livres rangés et dodo.